J'ai commencé à ranger mes affaires, mais c'est loin d'être... Je suis un petit peu un maniaque pour garder tout. J'ai gardé presque tous mes carnets de prof. J'avais une grand-mère qui était institutrice, un grand-père mort à la guerre qui était également instituteur. Donc moi, en fait, j'étais bon élève à l'école et donc j'avais qu'une envie, c'était de transmettre mes connaissances. Voilà, donc je suis devenu prof de français.
Il était super sympa cet élève.
J'étais plutôt le prof gentil. J'avais un collègue qui disait si on lui demandait, il trouverait des circonstances atténuantes à Hitler. Bon, alors ça m'a fait rigoler une fois il avait dit ça.
Ben voilà, 2007-2008. Non, donc ça c'est ma dernière année, 2007-2008. Seconde 4 fleurs, voilà, je les avais.
Quand vous arrivez dans cet établissement, vous avez quel âge ?
Donc là, j'ai 50 ans. J'ai le sentiment que c'est mon dernier poste à la CSI à Lyon où je pensais faire mes 10 dernières années de carrière. J'ai eu, à partir d'un certain moment, des élèves, la classe de seconde étrangère, c'est-à-dire que les deux tiers de la classe, c'était des élèves français, et l'autre tiers, c'était des élèves qui venaient d'arriver en France, et qui n'étaient donc pas francophones, dont les parents circulaient dans toute l'Europe ou dans le monde entier, voilà, plutôt classe sociale élevée, mais aussi c'est souvent des élèves qui avaient été ballottés d'un établissement scolaire à l'autre, ils avaient dû basculer d'une langue à l'autre, donc scolairement, ils n'étaient pas forcément très adaptés. Alors, on était donc, je ne dis pas de bêtises, en mars 2007. Donc, c'était une classe de seconde, qui était plutôt une classe agréable, ça fonctionnait bien. Il y avait un élève latino-américain qui nous posait un peu problème parce que c'était un élève un peu instable, qui remuait. Et c'était le type d'élève qui peut être intervenu 10 fois pendant l'heure de cours, pour des interventions qui cherchent à être positives, mais qui en fait sont 9 fois sur 10 à côté de la plaque. Et puis à la fin de l'heure, il vient vous voir quand les élèves sortent et il dit « Ah monsieur, vous avez vu, j'ai été gentil aujourd'hui ». Alors qu'en fait, on l'a trouvé assez insupportable. Mais effectivement, il était gentil. Donc arrive le conseil de classe du deuxième trimestre où on doit commencer à préparer l'orientation de façon à déblayer le terrain. Le conseil de classe a lieu le vendredi. On laisse clairement entendre que son désir de passer en première et de rester à la CSI ne nous paraît pas du tout raisonnable. En réalité, ce qu'on pouvait envisager, c'était quelque chose comme un BEP, c'est-à-dire une formation alternée, c'était quelque chose de concret dans lequel il puisse s'investir. C'est à ça qu'on pensait, mais lui le refusait. Et là, j'étais extrêmement angoissé, parce qu'un élève qui, à notre point de vue, est en plein déni de réalité, qui refuse cette réalité, c'est une situation très pénible pour le prof principal. Donc là, il y a ce conseil de classe, le vendredi. Alors, je dois aller revoir le lundi matin. Je les avais 2 heures. Je voyais bien mon élève au fond de la classe qui faisait une sale tête, mais ça me paraissait tout à fait normal parce que bien évidemment il était au courant de ce qui s'était passé. Pendant la première heure, un moment, il me demande à sortir. Il sort avec, il met la capuche sur la tête. Et puis il revient au bout de 10 minutes. La classe se passe quand même normalement, jusqu'au moment où je distribue les photocopies que j'avais préparées, des textes de Molière, et donc je m'avance dans les rangs. Et je le vois qui se lève du fond de la classe, je continue de distribuer, et d'un seul coup, boum, je sens un grand coup de poing, j'ai pensé que c'était un grand coup de poing dans le ventre. Donc je me plie en deux, et en me pliant en deux, je vois le couteau par terre. La première chose que j'ai dans la tête quand je vois que je reçois le coup et que je vois que c'est un coup de couteau, c'est soulagement infini. Mon problème, c'est complètement idiot, mon problème d'orientation, mon angoisse, j'ai plus besoin de l'avoir puisque par ce coup de couteau, il s'exclut automatiquement de l'établissement. Terminé pour moi, plus de problème, content. Je ramasse le couteau et je retourne au bureau, je pose le couteau sur le bureau. Alors, évidemment, les élèves avaient vu ça, donc une espèce de grand silence dans la classe. Et je dis, bon, écoutez, il faut que vous préveniez l'administration, donc il y en a un qui va descendre, puis j'aimerais bien qu'il y en ait un autre qui descende aussi, puis qui essaye de voir où va l'élève, là, parce que, bon, l'établissement n'est pas loin du Rhône, donc moi j'avais un peu peur qu'il fasse une bêtise. Et puis, donc, les pompiers, un moment après, arrivent, ils m'ont mis dans l'ambulance, et puis, pimpon, on est parti pour l'hôpital. Là, j'ai probablement totalement manqué d'imagination. J'ai pas imaginé être en danger de mort. Je crois pas y avoir pensé du tout, en fait. Et c'est peut-être un peu ce qui m'a joué des tours après, parce qu'après, j'ai bien pris conscience que s'il avait tapé un tout petit peu, enfin, c'était à pas grand-chose, il pouvait me percer le cœur, donc me tuer. Alors, l'élève, lui, sort de la classe, descend les 4 étages... se retrouve dans la rue et, semble-t-il, pratiquement tout de suite, entre dans une cabine téléphonique, puisqu'à l'époque, il y en avait encore. Il téléphone à la police et il dit « J'ai donné un coup de couteau à mon prof et mon père me bat. » Donc, la police se dérange et vient de le récupérer et le mettre à l'ombre pour un moment, en essayant de comprendre ce qui s'est passé. Après, il a été mis dans un établissement pour jeunes. Et il a fait quand même... il est resté, je crois, au total, ça a fait 8 mois de préventive. Il a fait savoir à la juge d'instruction qui l'interrogeait qu'il ne m'en voulait pas. Mais bon, c'était un petit peu typique de lui. Ça voulait dire « je vous voulais pas de mal ». Voilà ce que ça voulait dire. Il avait pris le couteau le matin chez lui. Donc, il y avait une forme de préméditation. Mais ce dont je suis très profondément convaincu, c'est que quand il a pris le couteau, il ne savait pas qui allait le recevoir. Est-ce que ça allait être tourné contre lui? Est-ce que ça allait être tourné contre un autre prof? Contre moi, il n'y avait aucune raison. Si, j'étais le prof principal, donc ça, c'était une bonne raison, entre guillemets. Mais bon, j'avais de bonnes relations avec lui et je pense qu'il m'aimait bien. Moi, je l'aimais bien aussi. Et effectivement, je le savais qu'il me voulait pas de mal. Et moi, je sors de l'hôpital au bout de 5 jours. C'était les vacances de printemps, donc ça me fait une semaine de repos. J'ai repris le travail normalement après, avec la classe. Je redeviens un prof tout à fait normal, en fait. Il y a des collègues qui m'ont dit « Mais t'as pas peur d'entrer dans la classe ?» J'ai dit « Non, pourquoi j'aurais peur ?» Par contre, oui, des insomnies, ça dure toujours. Alors moi, c'est vrai que ça a un petit peu démarré. Ça n'a pas démarré tout de suite. Hein. Ça a démarré 6 mois après, où j'ai fait 2 ou 3 nuits blanches complètes, enfin sans dormir du tout. J'ai fait une espèce de déprime, enfin, qui était sans doute quand même en rapport avec l'affaire. Parce que... progressivement, je me suis rendu compte, mais je pense que c'est ce que chacun de nous, en vieillissant, prend conscience de ça, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on est mortel. Mais là, le coup de couteau, après coup, m'a fait prendre plus fortement conscience de ça. Et donc, la mort et toutes les angoisses qui peuvent accompagner l'idée de la mort, tout ça, c'est devenu beaucoup plus présent. Alors, arrive le moment du procès, donc c'était un moment que j'attendais quand même. Donc son geste, il n'a jamais pu l'expliquer, parce que, à mon avis, il n'était pas explicable. Ou plutôt, si, il a tenté de l'expliquer comme un appel au secours, mais il avait une espèce de discours psychologisant qu'il avait ramassé, je ne sais pas trop. Il parlait de maltraitance par rapport à son père, mais en fait, ils ont fait des recherches jusqu'en Amérique du Sud pour essayer de vérifier ça, auprès de la famille, etc. Et apparemment, il n'y avait pas de maltraitance, en tout cas physiquement. Il avait fait, si je ne me trompe pas, 8 mois de préventive, donc il a été condamné à 1 an de prison, dont 4 mois avec sursis. Donc, en fait, il se passe. Et moi, c'est ce que je voulais. Je ne voulais surtout pas qu'il retourne en prison.
Vous ne cherchiez pas qu'il paye particulièrement? Vous n'étiez pas dans cette démarche-là?
Non, pas du tout. Non. Bon, j'avais appris qu'il était en apprentissage, qu'il était en train de se construire, qu'il avait une copine, qu'il habitait dans un logement social tout seul. Il était séparé de la famille, qu'il voyait plus son père. Et je pensais que c'était une bonne chose, en fait. Donc, le remettre en prison, même pour 15 jours, 3 semaines, c'était prendre le risque de le faire replonger. Donc.
Mais vous vouliez le protéger, en fait. Vous continuez de vouloir être son prof?
Oui, j'avais ce rapport-là avec lui encore. Hein. Et donc, à la fin, l'avocat vient vers moi et me demande si je veux bien parler avec lui. Donc moi, j'attendais que ça, en fait. Et on sort, donc tout le monde sort tranquillement, et puis on s'éloigne un petit peu dans les couloirs. Et là, l'une des premières choses qu'il me dit, donc on s'arrête, et on se regarde face à face, il me regarde. Bah, ça va? Alors, je dis, oui, tu vois bien, je suis en bonne santé. Puis je lui dis, mais des fois, j'ai un peu du mal à m'endormir. Et là, il me regarde et il fait plus son sourire un peu artificiel, un peu comédien, en fait. Il prend un air plus authentique et il me dit, vous savez, moi aussi, j'y pense toujours. Le seul regret que j'ai, c'est que, bon, ce contact, ça s'est arrêté là. J'aurais pu lui donner mon adresse, lui dire, j'aimerais qu'on se voit en dehors. Ça, je ne l'ai pas fait. Lui, il n'a pas osé le faire non plus. Et je pense d'un côté comme de l'autre, c'est un peu normal. Ce que, au fond, à la limite, ce que j'aurais aimé, ce que j'aimerais encore, si ça arrivait, c'est le rencontrer par hasard. Rencontrer par hasard dans la rue, le reconnaître, qu'il me reconnaisse, et qu'on aille boire une bière ensemble, et là qu'on discute et qu'on se raconte des tas de choses, sans doute. Parce que quand même, je ne sais pas si je dormirai mieux après, mais je pense que ça me ferait une clôture.
En gros, vous aimeriez qu'ils vous disent « je vais bien, quoi, ma vie
est... » Exactement. Oui, c'est ce que j'aimerais, qu'ils me disent « je vais bien ». S'ils pouvaient même me dire que le coup de couteau a servi à quelque chose, ça serait une très bonne chose.